En direct des coulisses de Brave, retrouvons Marie-Josée Gagnon en compagnie de son invité.
Nous sommes le 11 octobre 2023 et je reçois Dominique Anglade, professeure associée au HEC Montréal et ancienne chef du Parti libéral du Québec. Ensemble, nous avons parcouru les grands jalons de sa vie et avons fait référence à quelques reprises à son autobiographie « Ce Québec qui m'habite ». Mon invitée était, comme je m'y attendais, brillante et énergique. Vous êtes sur le point d'écouter une histoire qui, malgré tout, remonte le moral et donne envie de se faire totalement confiance.
Alors, bonsoir, Dominique.
Bonsoir, Marie-Josée.
Depuis que tu as quitté la politique l'an dernier,
oui, hein,
on ne t'a pas vu beaucoup. Je suis vraiment honorée de te recevoir à Brave. C'est vraiment, vraiment un honneur parce que tu n'as pas fait beaucoup d'entrevues. Je l'apprécie beaucoup. Puis là, je ne vais pas brûler un punch, je pense, en te disant que tu es une passionnée. Tu es intense.
Oui.
Tu es impatiente. Tu es aussi axée sur, complètement sur l'action. Dis-moi, comment as-tu vécu les 10 mois de pause que tu as eus?
Ah, mais c'est dur. Dans la vie, c'est peut-être la 5e fois où je prends un recul, où je me dis, attends une minute, là, tu vas toujours à vitesse grand V dans tout. Puis mon père avait une manière de dire, dans la vie, Dominique, il faut être rapide, mais il ne faut pas être pressé. Il ne faut pas confondre la précipitation et la rapidité. Et j'ai tendance à confondre les deux. Alors, c'est d'être capable de prendre ce recul puis de se dire, qu'est-ce que j'ai envie de faire? Et c'est la première fois de ma vie où je prends un recul et je ne suis pas en train de me dire, oh, là, il faudrait que je fasse un autre bébé parce que je veux vraiment un autre enfant, ou là, il faudrait que je pense à ma prochaine promotion, ou faudrait que, tu sais, tout ce il faut que. Mais là, il ne faut rien pantoute. Tu sais, c'était un moment de recul où je me suis dit, hey, je vais juste prendre le temps de profiter, ce qui m'arrive peu. Et j'ai plus aimé ça que je pensais. J'ai vraiment plus aimé ça que je pensais. Et il y a un poème que ma sœur m'a envoyé. Ça vaut la peine que je vous le lise, OK? Il est en anglais, OK? Je vous le lis. Mais vous allez un peu voir c'est quoi la réflexion qui m'habitait parce que je me suis beaucoup reconnue dans ce poème-là. C'est « Unstoppable, they called her. But I saw her stop. I saw her stop many, many times. Sometimes I thought she had stopped for good. But no, she always found a way to resurrect, to rise again. Not the same, never the same. Each time, a little more determined and a little less vulnerable. Unstoppable, they said. But I think that it was in the stopping that she found her power. » Je me suis reconnue dans ce poème-là, c'est vrai, parce que cet arrêt-là te fait juste du bien. Juste du bien de n'avoir pas grand-chose à faire, seulement être avec les tiens. Je me souviens d'une fille, à un moment donné, ça fait 20 ans, on était jeudi, puis elle me dit, hey, « qu'est-ce que tu fais samedi? Je reçois du monde chez nous. » Puis dans ma tête, je me disais, « Mais qui n'a pas de plan un jeudi pour un samedi? Tu sais, come on, tu sais, qui n'a pas de plan? » Puis moi, parfois, j'en ai pas. Puis je trouve ça extraordinaire. Voilà.
Cool. Tu es née le 31 janvier 1974 de parents haïtiens. Tu as une sœur cadette, Pascal. Alors que tu avais 14 ans, tes parents ont décidé de retourner à Haïti. Tu y as passé 3 ans. Puis je crois que ce séjour-là a été extrêmement formateur pour toi. Qu'est-ce que cette expérience en sol haïtien t'a apporté?
Premièrement, ça a été une expérience difficile, parce que tu imagines ceux qui ont des adolescents. Combien d'entre vous avez des adolescents? Vous allez comprendre. À 14 ans, là, dépayser un adolescent, c'est pas facile. Et j'ai adoré découvrir le pays avec mes parents. Mon père, c'est un géographe qui aimait parcourir le terrain, ma mère aussi. Donc, on a parcouru tout Haïti. Découvrir ce pays qui est le pays de mes origines, la famille extraordinaire, famille que j'ai, qui est toujours en Haïti, justement. Mais en même temps, tu découvres que c'est pas chez toi. Chez toi, c'est ici. C'est pas... Tu penses que c'est chez toi, originellement, mais dans le fond, tu découvres que ta mentalité est très différente, ta manière de réfléchir est très différente, et tu as tout un ajustement à faire. Alors, à l'école, j'ai trouvé ça plus difficile. Je me suis fait deux grandes amies qui étaient Valérie et Geneviève, que j'ai revues pour le 50e anniversaire de Geneviève, que j'appelle Verdier en nous. Donc, j'ai gardé ces liens très étroits avec des amies qui m'ont été très proches et marquantes. Mais en même temps, tu sens que tu n'as pas l'espace. Et mes parents étaient très impliqués en politique. Alors, la politique, hein, quand il y a quelqu'un qui m'a posé la question, pourquoi la politique? Mon père était impliqué en politique, mon grand-père, mon arrière-arrière-grand-père. Tu sais, bon, il y a comme une espèce d'ADN dans tes veines. Mais ça m'a aussi appris ce que c'est que... Est-ce que c'est que la pauvreté, la vraie, là? La vraie misère, là, de ne pas être capable d'élever tes enfants, de ne pas être capable de nourrir tes enfants, de ne pas avoir de père à la maison, puis d'avoir 7 enfants, puis d'être désespéré. Ça t'apprend tout ce que c'est que de ne pas avoir de possibilité. Et ça, ça m'habite quotidiennement. C'est quelque chose qui m'habite tous les jours. Je me dis, tu sais, il y a des gens qui ne sont pas capables de faire ci, de faire ça, ça m'habite tous les jours. Cette capacité de redonner aux autres, c'est de voir mes parents qui s'enflammaient, tu sais, à un moment donné, j'ai dit à mon père... Est-ce que tu es heureux, papa? Est-ce que tu es une personne heureuse? Il dit, comment tu veux que je sois heureux quand mon pays n'arrive pas à se sortir d'une situation si difficile? Je suis genre, ah, bon, c'est un peu lourd quand tu as 10 ans, tu poses la question, tu sais. Mais c'est cette relation à l'autre que je pense que j'ai vraiment apprise. Et puis aussi, la force du peuple haïtien. Je dis souvent, Haïti est trop riche pour être considéré comme un pays pauvre, parce que riche de sa culture, riche de... première société noire sous l'esclavage à prendre son indépendance en 1804. Une société qui a... C'est grâce à Haïti qu'on a été capable d'abolir l'esclavage partout en Amérique latine, parce que c'est Haïti qui a donné les moyens. Ça a été un pays qui, jusqu'à présent, a payé une dette à la France qui est l'équivalent de 20 milliards de dollars. Et la France ne le reconnaît toujours pas. Et dans les livres d'histoire en France, on ne parle pas de ça. Donc, il y a une histoire et une contribution énorme de la culture haïtienne à l'histoire de l'humanité qui n'est pas suffisamment connue. Et ça, pour moi, c'est quand même un élément de fierté que de porter ça en moi tous les jours.
Tes parents étaient des enseignants? Ton père a participé à la fondation de l'UQAM.
Oui.
Il a aussi été un exilé politique. Il a été emprisonné à Haïti pour rien. Ta mère a eu, elle, des ennuis de santé mentale.
Oui.
Malheureusement, les deux sont partis trop tôt, en janvier 2010, lors de du terrible tremblement de terre qui a secoué Haïti. Parle-moi du rapport que tu as eu avec eux. Qu'est-ce qu'ils t'ont apporté?
Oh, je suis ce que je suis à cause de mes parents. Il n'y a pas de doute dans ma tête. Je suis très consciente d'avoir été une enfant quand même privilégiée. J'ai eu des parents qui étaient aimants, des parents qui... C'était mon meilleur public, mais aussi mes plus grandes critiques. Hein. Mes parents, ils niaisaient pas. Là, quand il fallait critiquer, ils critiquaient abondamment. C'était des gens dont la valeur cardinale, c'était l'éducation. Et moi, je me souviens qu'en première année, j'ai 6 ans, j'ai ramené un assez bien en mathématiques. Et avant de ramener le bulletin, je me disais, ah, ça ne va pas bien se passer. Puis là, j'ai ramené le bulletin, puis ça ne s'est pas bien passé. Puis ma mère m'a dit, tu ne me ramènes plus jamais un bulletin comme ça. Ben, je n'ai plus jamais ramené un bulletin comme ça. C'était ça. C'est comme ça que ça marchait à la maison. On était très... L'éducation, c'était... Alors, je pouvais faire tout ce que je voulais. J'étais un peu dissipée comme élève, là. Je respectais pas toujours les règles. J'étais souvent mise à la porte parce que j'écoutais pas ou je faisais... Mais comme j'avais des bonnes notes, si on me pardonnait tout à la maison, peu importe, on me pardonnait tout. Alors, il y avait une certaine rigueur. Il y avait beaucoup d'amour. Il y avait... Mon père avait une très forte personnalité, mais aussi, je raconte souvent cette anecdote du pape parce que on me demande souvent, Dominique, tu as une confiance. C'est vrai que j'ai confiance en moi. J'ai confiance en moi. Je crois en l'avenir. Je crois que je suis capable de faire plein de choses. Si j'ai cette confiance-là, elle me vient de mes parents. Quand j'avais, en 1984, quand le pape est venu au Québec, au Canada, j'ai été déléguée par mon école pour aller rencontrer le pape. Et ma grand-mère haïtienne là, était débarquée d'Haïti là, parce que j'allais voir le pape. T'sais. Puis là, la robe, il fallait la robe, il fallait la coiffure, puis il fallait tout. T'sais. Mais personne ne se posait réellement la question de ce que j'allais faire à la rencontre avec le pape. T'sais. Puis moi, j'avais une question que je voulais y poser. Et j'étais allée le voir, et à un moment donné, il y a donc le pape arrive, les gens sont en pleurs, c'est le pape, c'est Céline Dion qui chante une colombe. T'sais. Et là, le pape arrive près de moi, puis là, je prends sa main, et je lui dis, est-ce que moi aussi, je peux être pape? T'sais? Puis là, il ne répond pas, puis il met sa main sur ma tête, puis il me dit que je suis bénie ou quelque chose du genre. La déception. Puis là, mes parents m'avaient vu à la TV, avec les images à la TV, etc. Ils prenaient des photos de la TV à l'époque, on n'avait pas grand-chose d'autre. Quand je suis rentrée, mon père, il a vu que j'avais pas l'air, tout le monde était content, puis moi, j'étais comme, j'ai vu le pape. Et là, il me dit, mais qu'est-ce que t'as? Je dis, papa, je peux pas être pape. Puis il dit, je savais que je ne pouvais pas être pape, mais j'ai demandé, il n'a pas répondu, parce que je peux pas être pape. Et mon père de dire, eh bien, tu sauras que c'est pas le pape qui décide qui va être pape. Il y a une papesse Jeanne par le passé. Alors, c'est pas... Et alors, je me disais, mon père, il est un peu fou. Mais mon père qui est au ciel aujourd'hui, je le salue, qui... Moi, là, tout le monde ici peut dire tout ce qu'il veut sur moi. Tout ce que vous voulez sur moi. Mais moi, il y a un monsieur en haut, là, qui pense que moi, je peux être papesse. Puis ça... Ça vaut tout l'or du monde. Et je pense qu'on a besoin de dire à nos papas, à nos frères, à nos fils, dans une relation père-fils, père-fille, c'est pas le seul moyen de le faire, évidemment, mais vous n'avez pas idée ce que ça donne comme moyen, puis comme elle a une petite fille, d'entendre ça, puis de sentir que tu as plein de choses que tu peux accomplir. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. C'est un cadeau du ciel, alors... J'avais une relation deux jours avant qu'il meure. J'écrivais, je vous aime, je vous adore, vous êtes super. Bon, donc quand ils sont décédés, il n'y avait pas de porte fermée. Mais tu as ouvert plein de portes. Tu as parlé de santé mentale aussi. Ouais. Tu as parlé de... Ma mère a souffert de dépression. Puis vous savez, dans les communautés culturelles, notamment la communauté haïtienne, c'est pas genre le sujet de l'heure. Là, on ne parle pas nécessairement d'enjeux de santé mentale. Alors... C'est pas qu'on le cachait, mais on n'en parlait pas nécessairement. Et ça a été des moments très douloureux pour ma mère. Puis ma mère était assez avant-gardiste comme femme. Là. Elle disait, moi, j'ai un problème de santé mentale. Elle s'assumait beaucoup. Et c'est ce qui me permet d'en parler aujourd'hui aussi. Ça m'a fait vieillir vite. Parce que j'étais je sentais que j'avais la responsabilité de ma petite sœur. Puis ça m'a toujours beaucoup sensibilisée à la question de la santé mentale qui, non seulement touche un enfant ou touche la personne, mais touche ses enfants, touche son couple, touche le travail, touche tout autour. Donc, c'est pour ça que j'ai très vite été sensibilisée à ces enjeux qui sont fondamentaux et dont on parle heureusement davantage aujourd'hui. Là, ma mère, elle a fait une thèse de doctorat plus tard. Et le titre de la thèse de doctorat, c'était « Le travail des femmes » ou « Comment les hommes deviennent riches ». Ça, là, ça m'habite tous les jours aussi. Dès qu'on pense à une situation de peu importe le sujet qu'on traite, on doit toujours réfléchir à « Qu'est-ce que ça veut dire pour les femmes ?» Parce qu'encore aujourd'hui, ce sont celles qui portent le poids de notre terre. Et je reste persuadée d'une chose, si on était gouverné par oui, beaucoup plus de femmes qu'on ne l'est aujourd'hui, on ne serait pas dans cette situation-là. On serait. Il n'y aurait pas toute cette guerre déclenchée puis ces attentats. Il n'y aurait pas ça, je suis convaincue de ça. Et ça, ça fait partie beaucoup de ce qui m'a été transmis par mes parents.
Les fondations de sa vie viennent de là. C'est ce qui explique son estime de soi, son ambition, sa résilience et l'importance qu'elle accorde au combat des femmes.
Là, je t'imagine, vers 16-17 ans, revenir d'Haïti gonflée à bloc, prête à mordre dans la vie montréalaise. Qu'est-ce que tu fais en rentrant?
Ah non, mais j'étais un peu jeune quand je suis revenue parce que... Mais tu mords dans la vie, ça veut dire que tu fais plein de choses qu'une enfant de 17 ans a envie de faire. Puis là, tu sais, j'étais seule à Montréal. C'était trop jeune. C'était trop jeune. Mais bon, finalement, il y a eu un coup d'État, mes parents sont revenus, donc ça n'a pas été si long que ça. J'avais envie de mordre dans la vie. Quand je suis entrée à Polytechnique, j'ai fait toutes les implications possibles et imaginables. On me disait, il y a le journal étudiant Polyscope. Ah ouais, je vais aller, qui était un peu secondaire, un peu trop secondaire parfois. Donc, l'intensité, elle ressort de manière forte. Et tu fais tout, comme si ça allait avoir une fin, puis il fallait tout accomplir. Puis à un moment donné, tu te dis, bon, il faut peut-être prendre un peu de recul. D'où l'importance de prendre ces reculs, d'où l'importance de dire, attends une minute, peut-être que j'en fais trop, peut-être que j'ai besoin de me retirer un peu puis de réfléchir à ce qui est
vrai. Mais ta vie, ça a été ça, hein? On va le voir. Des périodes très intenses, des moments de recul, des périodes intenses. Alors, la prochaine, c'est une période intense, mais en recul. Après Polytechnique, à l'âge de 22 ans, tu te retrouves en Ontario, à Belleville, pour travailler pour Procter & Gamble. Tu vas être là au moins 4 ans, je crois.
Oui, 4 ans.
Et là, tu vas être en retrait. Tu vas beaucoup travailler en Ontario. Tu vas travailler aux États-Unis beaucoup. Puis tu dis que tu es 4 fois minoritaire. Donc, par la langue, le genre, l'âge et l'origine ethnique. Quand on a 22 ans, puis on est nommé quand même dans des postes importants, toute jeune, puis on a ces 4 minorités-là, qu'est-ce qu'on fait?
Bien, premièrement, c'est un peu le choc. Parce que tu arrives, puis tu dis, oh là là! Si tu regardes tes employés, puis tes employés, ils ont 2 fois ton âge. Puis ils me regardaient aller, genre de dire, who is she? Seriously. Puis je me suis dit, il n'y a aucune chance que j'établisse ma crédibilité en disant, oh, j'en sais plus que toi. Je vais apprendre à les connaître. Ils vont apprendre à me connaître, puis on va apprendre à travailler ensemble. Et je me souviens avoir rencontré chacun de mes employés, un par un. Puis, à un moment donné, il y en avait un qui m'avait écouté pendant 1 heure. Il était tough. Puis à la fin de après de l'une heure de discussion avec lui, il m'a dit, « You know what, Dominique? I'm gonna work for you, even if you're a woman. » Sais-tu quoi? Je me suis dit, c'est quand même pas mal. Je lui ai dit, « Thank you. » À un moment donné, tu te dis, « Bon, on va l'amener avec moi au fur et à... » Tu sais, c'est baby steps. On est en 96, là, il n'y a pas... t'apprivoises des gens. Et tu te rends compte que, dans le fond, il y a beaucoup plus de choses qui nous unissent que de choses qui nous divisent. Et cette relation à l'autre, je l'ai portée avec moi tout au long de ma carrière. Et combien de fois, j'ai envie de vous dire encore aujourd'hui, j'arrive dans des endroits et je dis, « Il semble que je suis pas mal toute seule de ma gang. » Tu sais, « whatever the gang is », c'est-à-dire, tu sais, ça peut être une femme, une minorité, etc. Ça arrive encore trop souvent. Beaucoup, trop souvent. Mais tu sais, tu le prends, puis tu te dis, bon, ben qu'est-ce qu'on fait? On sensibilise les gens, etc. Puis tu le sensibilises. Quand j'étais en politique, parfois, je me souviens que j'avais allé à des événements, puis je regardais la table d'honneur qu'ils formaient. Puis j'ai dit, ça, c'est la table d'honneur qu'ils ont, sérieusement. J'ai dit, ça marche pas. J'ai changé, moi, la table d'honneur. Il dit, ben là, on peut pas changer. Ah, ben moi, je peux pas aller à l'événement. Tu sais? Puis il faut que tu sois capable d'aller... créer un peu de forcer des mécanismes pour que des choses changent en termes de représentativité. Mais pour revenir à Belleville, j'ai énormément appris. Je ne suis pas payée par Procter & Gamble pour le dire, mais ça a été une extraordinaire entreprise. Une extraordinaire entreprise où j'ai appris une tonne en peu de temps et j'ai énormément grandi avec eux.
Peux-tu nous résumer, c'est quoi une extraordinaire entreprise?
Une extraordinaire entreprise, c'est que c'est quelqu'un qui te dit... Alors, pour moi, pour des gens. Mais moi, je suis arrivée, puis j'ai dit, bon, moi, je vais te donner le meilleur de moi-même, mais je vais être promue rapidement, je veux que tu me donnes des défis. J'avais des défis à la hauteur de mes aspirations. J'avais des formations comme je voulais. J'avais un soutien indéfectible pour ce que je demandais. Pour moi, un bon patron, c'est quelqu'un qui est capable de voir en face de lui ce qu'il a comme matière brute, puis ce qu'il est capable d'en faire, ben c'était ça, Procter, pour moi. Je voyais Jeff Neal, qui a été mon premier patron, Jeff, puis là, je le voyais, il avait 36 ans, puis Jeff, il disait, bon, ben Dominique, il m'accompagnait là-dedans, il y avait comme une espèce de partenariat dans ce développement de talents qui rentrent, qui sont jeunes, qui sont naïfs, qui sont bons. Et ça, je ne l'ai pas retrouvé souvent. En fait, je ne l'ai jamais retrouvé comme ça ailleurs dans ma carrière. cette capacité de et des définitions du leadership, de comprendre que c'est d'avoir de la vision, d'avoir la capacité de donner des moyens à tes employés, mais également, il faut les énergiser. C'est un peu boss plate qui s'en va, qui dit « Ah, il faut y aller, mais c'est plate de le suivre. » Ben, t'as pas envie de le suivre. C'est de trouver tous ces aliments-là pour amener quelqu'un à performer. Moi, j'ai vraiment... ça répondait beaucoup à qui j'étais, à l'époque.
Donc ça, ça a été très marquant. Puis il y a eu un événement 2 ans après ton arrivée chez Procter & Gamble qui a été extrêmement marquant aussi parce que ça va faire 25 ans ce mois-ci. Tu as pris un vol vers Vancouver, un 30 octobre.
C'est vrai. Excusez-moi, oui, c'est vrai, c'est Paris.
Un 30 octobre et tu t'es retrouvée dans un party d'Halloween qui a changé ta vie.
Oui, ben oui, je vous compte.
Raconte-nous ça.
Je vous compte ça. Parce que dans la vie, okay, c'est vraiment important aussi, c'est faut prendre des risques, OK? Faut prendre des risques. Puis plus t'en prends, il y en a qui sont bons, il y en a qui sont moins bons, mais plus t'en prends, plus tu développes cette capacité à dire, ah, ben, je vais essayer quelque chose, ça marche pas, je passe à un autre appel. Mais le 30 octobre, c'est un vendredi, 30 octobre 98, et je m'en vais à Vancouver voir une de mes amies qui étudie à Vancouver, justement l'amie que j'avais rencontrée en Haïti, Geneviève Verdier. Et là, on est peut-être 9 heures le soir, puis c'est l'Halloween, c'est le 31, on est samedi, le lendemain. Là, je dis, ben, on se déguise, on va dans un party. Là. Puis là, elle me dit, ben, quel party? Je dis, on va sur le campus de UBC, puis on va bien trouver quelque chose. Fait que là, on se déguise, tu sais, puis là, on prend l'autobus. À un moment donné, on voit une maison, il y avait du monde, vraiment beaucoup de monde. Mais c'était pacté, en fait. Fait que, j'en vais là, ben, on sort, on marche, on rentre là, et je perds mon ami. Mais là, je m'assois. Elle me fait une petite chaise dans un coin. Il y avait vraiment beaucoup de monde. Je m'assois comme ça. Puis là, il y a un gars qui est assis par terre, qui a un costume de fantôme dont je ne vois pas le visage, puis qui me dit « Do you want a banana? » Puis là, je dis « C'est quoi ce pick-up line de schnout? » Et là, je lui dis « Ben non, je ne veux pas de ta banane. » Fait que là... Là, il me dit, ben là, je viens d'arriver, moi, je connais pas ça, l'Halloween, fait que j'ai mis mon déguisement. Fait que quand ça me parlait, putain, un gars d'Allemagne. Mais le gars, super intéressant. Super, super intéressant. Mais je vois pas sa face. Alors, on cause, on jase. Mais là, le temps file, puis là, j'ai perdu mon ami, tu sais. Puis là, il faut que je prenne l'avion pour retourner en Ontario le lendemain, puis là, ça fait 3 heures de temps qu'on jase, puis j'ai toujours pas retrouvé mon ami parce que, tu sais, bon, je regarde, je la retrouve pas, en tout cas, peu importe. Puis à la fin, on échange, d'ailleurs, dans mon sac à main, il y a encore ce petit morceau de papier qui dit son nom, puis son numéro de téléphone, puis son ICQ, OK? ICQ, ouais. Qui connaît ICQ? Quand même! Mais, tu sais, ça remonte. Et là, je retourne... Je retourne en Ontario, puis là, je me dis, c'était vraiment un gars intéressant, mais tu sais, je vais probablement jamais le revoir. Puis il m'écrit le lendemain, puis il me dit, « Hey, it was really nice meeting you, nanana. » Puis là, je dis, « Ah, ben moi aussi. » Et là, il me dit, « It's interesting because we're going to marry and have kids. » OK. Là, je dis, « Freak alert. » On delete et on parle plus jamais à ce gars-là. Fait que là, je dis, oh, je suis noyé malade, ce type-là, je voudrais savoir de lui. Fait que...
T'as comment rencontré ton double au niveau confiance?
Ah, lui... là, il m'envoie des poèmes, mais les poèmes sont beaux, tu sais. Fait que là, je les lis, puis là... Pour une histoire courte, 3 semaines plus tard, je retourne à Vancouver. Et là, je débarque.
Est-ce qu'il t'avait envoyé au moins une photo de lui?
Mais non, mais là, c'est ça l'affaire, OK? Personne ne se souvient de ça. Mais en 98, il n'y a pas de photo que tu peux envoyer sur Internet. Ça n'existe pas. Fait que je ne peux pas faire Google son nom. Je ne peux rien faire. Tu n'as rien comme information, sauf un numéro de téléphone. Puis il peut bien dire ce qu'il veut. D'où mon doute, quand j'arrive à l'aéroport, je débarque de l'avion. Puis je me dis, OK, Dominique, tu es complètement folle. Ce type-là, ça pourrait être un tueur en série. Fait que là, je ne veux plus sortir de l'aéroport. Fait que là, je suis assise, débarquée de l'avion, je suis assise. Je dis, qu'est-ce que je fais? Et là, j'appelle ma sœur. Et je lui dis, écoute, Pascal, c'est pas compliqué. Là, je te raconte l'histoire. Là, je lui fais l'histoire rapidement. Elle me dit, OK, si j'ai compris, t'es retournée voir un gars que t'as jamais vu dans le fond. Puis si j'ai pas de tes nouvelles dans 24 heures parce que tu penses que ça pourrait être un tueur en série, j'appelle la police. C'est OK. Puis là, elle me dit, OK, vas-y maintenant. Je dis, ouais, j'y vais. Ouais, vas-y. Fait que là, je sors. Et évidemment, je suis la dernière à sortir parce que j'ai tellement pris de temps après avoir débarqué de l'avion. Puis là, il y a une espèce de grand gars, pas moche. Je regarde, je dis, oh, OK. Puis là, j'avance, puis il me fait une petite tête comme ça. Puis là, j'avance vers lui, puis il me prend, puis il m'embrasse. And the rest is history. On s'est mariés, puis on a eu 3 enfants.
J'ai l'impression que... C'est une belle histoire. J'ai l'impression que sa confiance t'a vraiment, vraiment séduite.
Mais il n'y a aucun doute. Mais je peux-tu dire quelque chose là-dessus?
Oui.
OK, là, je vais vous dire quelque chose. Qu'on ne dit jamais dans les classes, dans les cours, puis tout ça. Puis là, faites des études, puis là, allez dans des bons... Trouvez-vous des bons emplois, puis tout ça. Puis ça, c'est vrai. Mais si t'es pris avec un boulet dans ta vie, là, qui te tire vers le bas, là, ça, c'est pas bon du tout. Puis des boulets, il y en a. Puis moi, j'ai une nièce qui avait, tu sais, 20 ans, belle comme un cœur, puis tu sais, intelligente, puis prise avec un gars qui n'a pas de bon sens. Tu sais, il faut qu'on se le dise, c'est pas... Tu sais, à un moment donné, c'est des personnalités qui peuvent vraiment te tirer vers le bas. J'étais avec un gars, et je finis Polytechnique, donc j'ai 22 ans, je vais travailler en Ontario, fait que faut que j'achète une auto. Fait qu'un matin, je me lève au mois de mai, puis je dis à ma mère, « Hey, il faut que je m'achète une auto. » Ma mère me dit, « Hey, on va acheter une auto. » Puis on part acheter une auto. Puis là, on revient, puis j'ai acheté une Tercel qui m'a coûté 12 000 $. OK? J'ai pas acheté une Rolls-Royce, pas acheté une BM, j'ai acheté une Tercel Toyota. Là, je rentre, puis j'appelle mon chum, je dis, « Hey, j'ai acheté une auto. » Il me dit, « T'as quoi? » J'ai acheté une auto. Ben là, t'aurais pu m'en parler. « Ah, ben oui, OK. Ben, je m'excuse, je t'en ai pas parlé, tu sais. » Ben là, ça n'a pas d'allure, t'as acheté une auto, puis là, t'as même pas considéré toutes les offres, puis là, t'as fait ça sur un coup de tête, puis là, Là, mon père, il me dit, « T'aurais dû en parler à ton chum. » Je dis, « Bon, OK, j'aurais dû. » Là, je m'excuse, je dis, « Je suis désolée, j'aurais dû t'en parler, puis j'en ai pas parlé. » Mais là, ça n'a pas d'allure. Hey, là, 2 jours, 3 jours. Hey, 4e jour, là. Là, j'ai dit, « Coudon, je dois-tu de l'argent? » Puis là, il me dit, « Ben non, mais tu sais, j'ai dit, bon, OK. Si tu dois de l'argent, je te rembourse. Si tu dois pas d'argent, je ne vais plus en entendre parler. » Bon, ça n'a pas été super pour la relation. On met cette histoire-là de côté. Là, je suis avec ce nouveau gars de Vancouver.
Helge.
J'avais ce nouveau gars de Vancouver. Puis là, je reviens à Montréal. Puis là, je vais louer un appart parce que je reviens à Montréal, etc. Mais là, je visite un appart, puis il est à vendre, puis je dis, ah, je l'achète. Puis là, je suis comme ding, 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 l'auto. Fait que là, j'appelle mon chum. Puis j'ai dit, écoute, j'ai visité un appart, j'aimerais ça l'acheter. Qu'est-ce que t'en penses? Il me dit, ben, je l'ai pas vu. Fait que je dis, oui, mais je sais, mais je voulais avoir ton opinion, tu sais, quand même. Peut-être que t'as une opinion sur le fait que je puisse l'acheter ou pas. Ben, il dit, je l'ai pas vu, Dominique. Tu l'aimes ou tu l'aimes pas? J'ai dit, je l'aime, mais j'ai pas vu. Puis là, il me dit, coudonc, as-tu besoin d'argent? J'ai dit, OK, ce gars-là, je vais le marier. That's it. Tu sais, c'est quelqu'un qui te donne des ailes, qui n'est pas pris dans les dédales de trucs, qui te fait confiance, qui se fait confiance.
L'autre chose, Dominique, que tu dis dans le livre, qui, ça tient en une phrase, puis c'est peut-être une des phrases les plus puissantes du livre. Tu dis, jamais Helge ne m'a dit tu n'es pas assez souvent à la maison. Jamais. Il t'a
pas
dit ça.
Une fois.
On salue Helge, puis on salue l'autre aussi.
Après Procter & Gamble, à son retour à Montréal, elle rattrape le temps perdu et multiplie ses implications, notamment à titre de présidente de la Jeune Chambre de commerce de Montréal. Elle s'inscrit au MBA, travaille 4 ans chez Nortel, 7 ans chez McKinsey et 2 ans chez Montréal International. Ma question pour elle, quel est le fil conducteur de ta carrière?
Au fond de moi-même, je pense que c'est la capacité d'avoir un impact. Tu parlais de tout ce que j'ai fait pendant que j'étais chez Nortel en parallèle. C'est aussi parce que je sentais que c'était pas suffisant d'un point de vue professionnel, ce que je faisais. Oui, je m'épanouissais dans ma carrière professionnelle. J'arrivais à me développer. Je faisais mon MBA aussi en même temps et tout au HEC. je salue les HEC, où j'ai eu beaucoup de plaisir, mais ce n'était pas suffisant, puis j'avais envie de redonner à la société, de redonner. Donc, c'est pour ça que je m'impliquais. Puis, je n'ai jamais été capable, au début de ma carrière, de faire comme ça. C'était, je me développais d'un point de vue professionnel, puis je m'impliquais. Mais je n'étais pas capable de faire en sorte que les deux s'arriment. Et chez McKinsey, ça a été un peu la même chose, où j'aimais ça chez McKinsey, je me développais, je devenais plus forte dans ma manière de résoudre des problèmes, puis d'accompagner des gens dans leur transformation d'entreprise, puis la transformation de nos organisations, mais je n'arrivais pas à, en même temps, sentir que je contribuais suffisamment à la société. Et donc, je m'impliquais dans plein de choses, d'où la création de Campé aussi. Campé, oui. C'est ça, c'est de dire, hey, là, je suis tannée, là, j'ai besoin de sentir que, tu sais, j'aide des gens qui en ont vraiment, vraiment besoin. C'est bien d'aider les entreprises, c'est correct, mais je peux faire autre chose que ça aussi. Et finalement, Montréal International, ça a été le premier endroit où j'ai senti que j'étais capable de faire ce croisement-là, où je pouvais à la fois contribuer à la société, puis à la fois travailler d'un point de vue professionnel. Puis j'ai trouvé ça magique, j'ai vraiment aimé Montréal International pour ça. C'était la première fois où je sentais que j'étais capable de faire ça, contribuer à quelque chose qui était un peu plus grand que moi. Mm-hmm. C'est ça le fil conducteur, je ne sais pas si
ouais.
Il conduit. Là, mais...
Parfait. Puis, quand tu vas commencer chez McKinsey, tu veux fonder une famille. Tu as une belle job, tu as un chum que tu aimes, mais ça ne va pas comme tu veux. T'es obligé d'arrêter.
Ben non, parce que... OK, moi, je suis une planificatrice dans l'âme. Je planifie tout. Tout est planifié. Qui pense que c'est important de planifier? Mais moi, je pense que ce n'est pas si important que ça, finalement. Mais c'est comme ça que je m'accepte. Fait que là, tu te maries, puis là, tu as un bébé. C'est même ça marche. Hein? Puis là, ça ne marche pas de même. Fait que là, tu te dis, bon, mais comment est-ce que... Alors, ça a été un peu compliqué, tout ça. Et donc, j'ai arrêté. Quand j'ai dit, c'était important pour moi d'avoir des enfants, puis je ne pouvais pas tomber enceinte pour toutes sortes de raisons. Probablement parce que je voyageais tout le temps, puis qu'il y avait un stress énorme dans ma vie. Mais bon, ce n'est pas ce que je disais à l'époque. Et donc, j'ai arrêté, puis je suis tombée enceinte. Mais pour vous montrer un peu comment je suis, à 20 semaines, j'ai comme des douleurs au ventre, puis j'habitais à Vancouver, puis j'étais de passage à Montréal, puis je m'en vais à l'hôpital, puis je dis, bien, j'ai des douleurs. Puis là, elle dit, bien, madame, vous avez des contractions. Là, vous êtes, madame, on vous met au lit, vous êtes en bed rest. J'ai dit, ah, OK. J'ai dit, il n'y a pas de problème. Il y a ma soeur qui vient d'accoucher à New York, fait qu'il faut que j'aille la voir. Là, j'organise un événement ce soir, après ça, il faut que j'aille à New York voir ma soeur, puis après ça, je retourne à Vancouver, puis après ça, je suis en bed rest. Puis là, le médecin, il dit, je pense que vous n'avez pas compris. J'ai dit, comment? À partir d'aujourd'hui, vous ne quittez plus le lit. J'ai dit, quoi? C'est quoi cette affaire-là? Puis là, c'est un moment où j'ai fait 8 semaines alitée. Et là, écoutez, mon chum, là, je pense qu'il voulait... Je pense que c'est pour ça qu'il ne m'a jamais dit après, là. T'es pas assez souvent à la maison. Mais tant que je pense, ça a été 8 semaines où j'étais dans mon lit tout le temps.
Puis t'as 32 ans, puis vous vivez à Vancouver... parce que ton chum fait un doctorat là-bas. Puis à un moment donné, tu vas rentrer de Vancouver, mais tu dis quelque chose de vraiment drôle dans ton livre. Tu dis, si vous êtes en quête d'émotions fortes, à la recherche de discussions animées pour alimenter vos réflexions, ou si votre bonheur repose sur des soirées bien arrosées qui finissent aux petites heures du matin, faites demi-tour. Et vite, vous n'y serez pas heureux. Tu dis, à Vancouver, il n'y a pas de sang latin. Et tu rentres. D'ailleurs, j'ai une petite question, Dominique. Je me demande, ça a été quoi ton argument ou tes arguments pour convaincre Helge de vivre au Québec?
Ah non, c'était même pas un argument. Ah non, c'était même très simple. Quand j'ai commencé à sortir avec lui, au tout début, là, les premiers 6 mois, je dis, OK, mais moi, je veux juste te dire une chose. Moi, je veux habiter au Québec. Puis il me dit, mais t'habites en Ontario. J'ai dit, je sais, mais moi, je veux vraiment habiter au Québec. Fait qu'il faut que tu te commettes à habiter au Québec avec moi quand on aura une famille. Il dit, ben là, j'habite à Vancouver, t'habites en Ontario, puis on va se rencontrer. Je dis, oui, mais moi, je ne veux pas perdre mon temps. Fait que si on sort ensemble, je veux que tu te commettes à habiter au Québec. Puis là, il dit, mais là, j'ai dit, non, juste commette-toi. Parce que sinon, tu sais, je ne peux pas sortir avec toi. Puis il s'est commis. Mais là, lui, il a comme pas. Il dit, elle va changer d'idée. Fait que le temps passe, puis il me dit, j'ai dit, ben là, on va retourner au Québec à un moment donné. Il dit « Ouais. » Puis après, à un moment, il dit « Mais t'étais sérieuse, vraiment? » Hein? J'ai dit « Oui, je suis très sérieuse. » J'étais très sérieuse. Mais là, ça faisait genre 6 ans qu'on était ensemble. Tu sais, c'est comme là, tu n'as pas pu perdre 6 ans de mon temps, c'est pas vrai. Fait que. Mais tu sais, c'est un Allemand. Hein? Fait que. Il se commet. Tu sais. Ils sont comme un peu comme ça. Ils sont comme. Tu sais, tu suis la règle. Et donc, il est venu. Il n'a comme pas eu le choix. Fait que c'est ça.
Félicitations.
Il n'y a pas eu de discussion, c'est même pas une argumentation. Je ne serais pas sortie avec lui autrement. Fait que c'est peut-être que.
Voilà. D'ailleurs, tu as 3 beaux enfants. Michael, je pense qu'il a 16 ans.
Michael a 16 ans, oui.
Clara, 15.
15 ans.
Sophia, 12.
Exact.
Et je reviens à ton livre, Dominique. Tu dis, tu écris plutôt. Les histoires éprouvantes, si on trouve le courage de les partager, nous rapprochent les uns des autres. Fait que je vais te demander de nous parler d'une histoire éprouvante, de la tragédie de janvier 2010 qui a emporté tes parents puis 2 autres membres de ta famille. Puis lorsque tu découvres que le pire s'est probablement produit, tu demandes à ton mari, en bonne consultante que tu es, Peux-tu me sortir les étapes du deuil, s'il vous plaît? Puis là, il t'imprime ça, puis il te donne ça. Puis t'as aussi donné des entrevues sur le drame. T'as donné des entrevues tout de suite sur le drame. Tu dis, parce que ça devenait un drame national, j'étais plus à l'aise de vivre mon drame personnel, si j'ai bien compris. Tu as beaucoup, beaucoup souffert. Puis je me demandais, c'est quoi le meilleur antidote à une telle douleur?
Là, je pleure chaque fois que j'en parle. Ça fait 13 ans, puis chaque fois que j'en parle, j'ai... Je suis chez McKenzie, puis il y a un tremblement de terre en Haïti, puis je le vois. Puis je me dis, un tremblement de terre, comment, tu sais? Ben, il y a des tremblements de terre tout le temps, tu sais? Okay. Ça peut être si mal. Fait que j'appelle mes parents qui sont en Haïti, puis ils répondent pas, puis je me dis, ah, c'est pas si grave dans le fond, tu sais? Puis plus la soirée passe, puis plus tu te rends compte de l'horreur du tremblement de terre, de ce que ça a été. Et à 6 heures le matin, j'ai toujours pas de nouvelles de qui que ce soit. Pas de nouvelles, on ne sait pas ce qui s'est passé. Et à 6 heures du matin, on apprend que ma famille, elle vit, mes oncles, mes tantes, mes cousins, tout le monde vit dans la même place. Puis on apprend que toutes les maisons se sont effondrées. Toutes les maisons. Puis c'est là que je dis... Moi, je connais mon père, je connais sa force, je connais sa résilience. Je me dis, 6 heures du matin, Caroline, j'ai pas de nouvelles, c'est pas bon signe. Mais je suis pas en train de pleurer, là. Je suis très rationnelle. Et je dis à mon chum, peux-tu me trouver les étapes du deuil? Il paraît qu'il y a des étapes du deuil. C'est de manière très froide, je dis ça. Puis il me dit, ben Dominique, de quoi tu parles? Je dis, non, je veux juste savoir c'est quoi. Je te demande pas d'opinion, là. Je te demande juste de me donner les étapes, là, tu sais. Je suis très, très systématique là-dedans. Puis, mon amie Anne V m'appelle à 6 heures du matin, puis elle me dit, écoute, je veux avoir des nouvelles. Puis je lui dis, écoute, toutes les maisons de la famille se sont effondrées. Je lui dis ça comme ça. Et là, elle part à pleurer au téléphone, mais elle pleure. Puis elle me dit, est-ce que je peux m'en venir? Là, OK, j'ai dit, bon, elle, si elle pleure, puis qu'elle s'en vient, c'est que ça va vraiment mal. Mais je suis comme... déconnectée de ce qui se passe réellement. Et puis, une journée épouvantable, là, des messages, « Ton père est vivant, je l'ai vu! » Tout le monde t'écrit de tas de niaiseries. Tout le monde est sous le choc. Puis à 4 heures de l'après-midi, ma sœur m'appelle. Et ma sœur est incapable de me dire qui est décédé. Elle peut juste me dire qui est vivant. Et c'est là qu'elle me dit, « Malou est vivante, et Fred est vivant. » Je dis, « Mais papa, et maman. » Et c'est là que tu apprends que t'as mon père, ma mère, mon cousin Jean-Olivier qui avait 24 ans et mon oncle sont décédés. Puis je suis sur le lit, puis j'ai l'impression que je ne vais plus jamais me relever. Tu hurles ta vie, tu cries ta vie, tu sais, bon. Puis, tu es dans un état que tu ne comprends même pas toi-même. Mais là, moi, il faut que j'annonce la nouvelle à mon cousin Jean-Pierre, qui a perdu son père. Puis, il faut que j'annonce la nouvelle à ma cousine Anne-Claude, qui a perdu son frère. Fait que, tu sais, c'est bien beau de hurler ta vie et tout ça, mais tu as comme plein de responsabilités qui rentrent aussi en ligne de compte, tu sais. Puis ça a été... Je ne me souviens même pas de tout ce qui s'est passé. Tu essaies de te raccrocher à quelque chose, mais il y a une chose qui s'est produite qui a été magique dans un moment dramatique, c'est que mes parents ont été les deux premiers Canadiens à être identifiés dans la tragédie du tremblement de terre, et donc c'était dans les nouvelles, dans les médias, et il y avait des médias devant chez nous qui demandaient des entrevues, puis je me disais, mais je ne peux pas faire des entrevues, ça n'a pas de bon sens, Et là, j'ai parlé avec ma tante Dolores qui venait de perdre son fils, et ma tante Dolores, elle m'a dit une phrase que j'oublierai jamais. Elle m'a dit, Ninique, enfin, c'est comme ça qu'on m'appelle dans la famille, Ninique, m'a dit, nos morts, on va les enterrer. Mais on ne peut plus rien pour eux. On peut encore beaucoup pour les vivants. Elle m'a dit, on n'a pas d'eau, on n'a rien, tout est détruit. Tout ce que tu peux faire pour aider va nous aider. Puis c'est là que j'ai pris la force, j'ai dit, tu sais, j'ai 35 ans, oui, je perds mes deux parents, etc., mais il y en a qui ont perdu leurs enfants, il y a des enfants qui se retrouvent orphelins, c'est un drame épouvantable, il faut que tu te ressaisisses, puis que tu... Mes parents auraient voulu que je me ressaisisse puis que je fasse quelque chose. Puis c'est comme ça que j'ai été faire les entrevues. Puis tu vis le drame, la déchirure, la blessure tous les jours de ta vie. Mais tu es capable de dire, il faut que tu continues parce que tu peux encore beaucoup pour les vivants.
Merci. Puis c'est quand même cette année-là, c'est une drôle de coïncidence. C'est la journée du tremblement de terre, tu travaillais à créer, camper.
Oui.
Qu'est-ce que tu veux faire à ce moment-là avec Campé, puis qu'est-ce que tu as réussi à faire?
Bien, en fait, le 12 janvier est arrivé, mais le 17 janvier, c'était le moment où je lançais la stratégie de Campé. Mm-hmm. Et donc, quand arrive le 12 janvier, je n'ai pas de nouvelles de mes parents. Puis là, j'écris à tout le monde. Oh, on a la réunion stratégique le 17 janvier. Tu sais, toujours, c'est dans ton contrôle de quelque chose à ce moment-là. Et finalement, on l'a lancé. On l'a lancé parce que je me suis dit, si camper était nécessaire avant le tremblement de terre, il est encore plus nécessaire après. Et je me plonge dans ce que je sais faire de mieux, c'est-à-dire être en action, poser des gestes concrets, avancer. Ça ne veut pas dire que tu es en déni, ça veut juste dire que c'est comme ça que toi, tu vis les choses et que tu l'acceptes. Puis mon chum a été très aidant là-dedans aussi à rationaliser les choses avec moi. Il y a des jours où au début, tu pleures, je ne sais plus combien de fois par jour. Puis je me souviens, une journée, je me suis dit, « Ah, aujourd'hui, j'ai juste pleuré 5 fois. » Tu sais, je me souviens d'avoir fait le compte, j'ai juste pleuré 5 fois. Puis à un moment donné, je me suis rendu compte, il y a une journée, je n'avais pas pleuré du tout. Puis tu vois le progrès de dans ta peine, dans ta douleur, mais tu vois le cheminement. Puis, mais j'ai aussi compris la signification de l'expression qui dit, « À chaque jour suffit sa peine. » Parfois, là, c'est comme genre, OK, bien, j'en ai juste assez de cette journée-là, je vais me coucher, puis demain, c'est une autre journée. J'avais jamais compris ça dans ma vie avant. Parce que c'était qu'un trop-plein, là, je l'ai compris.
C'est comme le temps aussi.
Le temps.
Le temps.
Le temps.
On va parler politique un peu.
Oui.
Donc, dès 2011, tu vas t'impliquer en politique un petit peu plus officiellement. Disons, tu deviens président de la CAQ
oui.
À sa fondation. Tu te présentes aussi dans Fabre à Laval en 2012. Mais tu as des enjeux, tu n'es pas élu, là, mais tu as des enjeux surtout avec la position du parti sur les questions d'immigration et tu quittes. Puis, dans le cadre de ton travail avec Montréal International, tu rencontres Philippe Couillard et il te fait une offre. Puis là, tu hésites énormément à sauter. Tu as très peur. Tu as peur de quoi?
J'ai peur de tout. J'ai peur d'être jugée. J'ai peur de ne pas être une bonne mère. J'ai peur de ne pas être capable de concilier le tout. J'ai peur de tout. Je veux dire, j'avais...
T'as-tu peur de ne plus avoir des moments pour toi? Des moments...
Non.
Ça va être protégé, ça?
Non, pas que c'est protégé, mais j'ai jamais senti que... C'était tellement important pour moi d'avoir du temps pour moi. C'est pas quelque chose qui vient me... C'est pas une considération. Être une bonne mère, c'en est une grosse. De sentir que je suis pas une bonne mère, que je pourrais ne pas l'être. Puis le regard des autres, de sentir que, tu sais, je quittais la CAQ. J'avais dit que je ne ferais plus jamais de politique, puis j'avais aucune intention de faire de la politique avec Philippe Couillard. Zéro, avec une barre. D'ailleurs, c'est ça qui m'a amené à la politique, étrangement, parce que j'étais tellement sûre de ne pas en faire que je disais exactement ce que je pensais, puis tout ce que je pensais qui n'allait pas, puis vous devriez faire ci, puis vous devriez faire ça. Puis dans cette histoire-là, qui m'a remarquée, puis elle a dit, elle devrait venir avec nous, elle, parce qu'elle a des opinions. Mais moi, c'est parce que j'avais aucun intérêt. Alors, je disais exactement tout ce que j'aurais changé, tu sais. Mais j'avais une super job, j'avais 3 enfants en bas âge, j'aimais ce que je faisais. On venait d'aller chercher un nouveau président, Jacques Ménard, à la tête de Montréal International. J'avais promis à Jacques que je resterais minimum 4 ans quand j'allais le chercher. J'avais toutes les raisons de rester, là. Alors, ça a été la décision la plus difficile de ma carrière.
Mais tu as eu une conversation avec Monique Jérôme-Forget qui a été déterminante. Qu'est-ce qu'elle t'a dit?
Vous connaissez Monique Jérôme-Forget?
Une bonne brave, je pense.
Quand j'étais pas sûre de mon affaire, j'ai dit, je vais appeler Monique Jérôme-Forget. Mais là, il faut que tu y ailles. Puis là, j'ai dit, oui, mais Monique, des enfants. Non, les enfants, c'est pas une considération. OK? OK, mais Monique, quand même, ils sont jeunes. Non, il faut que tu y ailles, parce que là, tu as parlé au premier ministre, et ça va être une belle opportunité pour toi, et puis en plus, tu pourras faire des changements que tu veux, je te connais, tu vas être bonne, Fait que, puis là, tu sais, mais chaque jour, j'étais comme genre, oh non, je pense que j'y vais pas. Non, je pense que j'y vais pas. Puis là, je rappelais Monique à la fin, et je pense une fois que je l'appelle, puis elle me dit, bon, là, t'as fini de m'appeler, parce que là, t'as pas encore pris ta décision. J'ai dit, mais je pense que ça va être non. Eh bien, c'est une erreur. C'est une grave erreur. Je suis comme, OK, Monique, tu sais, bon. Alors, Monique, c'est une personne, tu sais, tough. Je pense que 30% de ma décision, c'est Monique Jérôme-Forget, facile. Mais j'ai répondu non. J'ai dit que je ne voulais pas y aller. Il me rappelait et il me disait, oui, mais réfléchis. Non, mais j'ai réfléchi, je vous ai dit non. Puis là, il rappelait 2 jours plus tard, as-tu réfléchi? Oui, j'ai réfléchi, je vous ai dit non. Puis il rappelait. Là, je comprends la technique. Après, j'ai compris la technique, tiens. Tu fais juste rappeler tout le temps. Puis à un moment donné, j'ai dit oui. Puis il y a comme un sentiment de... Quand j'ai dit oui, j'ai dit, OK, je suis prête. Je me lance. Mais je savais que ce ne serait pas facile. Hein. Quelqu'un me posait la question un peu plus tôt. Je savais que ce ne serait pas facile. On dirait qu'il vient de la CAQ. Je m'en foutais un peu, à la limite. Une fois que la décision était prise, c'est comme tu sautes, puis advienne que pourra, puis un autre défi. Puis j'avais envie. C'est vrai qu'il y avait un élément de moi qui, en termes de développement économique, développement social, j'avais envie de contribuer. C'est une autre manière de contribuer à quelque chose qui est plus grand que moi. J'ai sauté.
Oui. Tu as été élu d'abord dans une élection partielle, ensuite 2 fois dans 2 élections générales, 2018-2022. Puis dès le départ, hein, en janvier, tu es élu genre en mois de novembre, puis en janvier, tu deviens ministre. D'abord de l'économie, de la science et de l'innovation, responsable de la stratégie numérique, tout ça la première fois. Bonjour. Et un peu plus tard, en 2017, tu vas devenir vice-première ministre. Puis là, j'en passe, là, plein de nominations. Puis ton ascension au Parti libéral est fulgurante. Moi, je suis curieuse de savoir comment c'est perçu par tes collègues, députés et ministres.
Pas toujours bien. Mais je veux dire, ça dépend de avec qui. Tu as des gens qui voient ça comme étant « Ah, ben c'est du sang neuf qui arrive, puis elle contribue, etc. » Mais il faut s'imaginer qu'il y a des gens qui sont là depuis longtemps aussi, tu sais, qui aimeraient ça, avoir des fonctions. Puis quand je suis nommée ministre, moi, je n'entendais pas du tout avoir... Et quand le premier ministre, il me dit « Ah, ben Dominique, on va te donner... » Quand il y a un remaniement ministériel, personne n'est au courant, puis tu te dis, tu dois venir, mais tout seul, tu vas dans un garage, puis tu passes par une petite porte. Puis là, ils t'amènent dans un couloir, puis il y a 2 beaux bonnes sœurs qui sont avec côté toi, puis là, tu passes dans un autre couloir, puis là, tu remontes, puis là, tu redescends, puis là, tu remontes. Puis là, tu rentres dans une pièce, puis là, il y a le premier ministre, puis il y a son chef de cabinet, tu sais. Puis là, il y a comme 2 minutes de conversation où le premier ministre te dit, ou ta somme, dépendant, il te dit, bon, ben Dominique, j'ai décidé de te nommer... ministre responsable de l'innovation. Je dis, ah, OK. De la stratégie numérique. Ah, OK. Mais en fait, j'ai décidé de te donner l'économie au complet. OK. Puis là, il continue à parler, mais toi, tu n'entends rien. C'est comme économie au complet. Mais attends, il y avait quelqu'un d'autre à l'économie. Puis comment ça va marcher? Puis là, tu es comme. Dis, bon, alors ça va? Ah, oui, ça va. Dis, bien, félicitations. Merci. Puis là, tu dis « Merci de la confiance ». Puis là, tu sors, puis tu es comme un peu sonné, OK? Alors, c'est un peu comme ça que ça se passe. Et donc, t'es pas... moi, je m'attendais pas à avoir autant de responsabilités aussi vite. Mais c'est pas grave. Tu sais, j'embarque dans le train. Et c'est sûr qu'il y a des gens qui vont regarder ça, puis qui vont dire, mais pourquoi elle? Pourquoi? C'est ça aussi, la politique, hein? Mais moi, je travaille toujours avec les gens qui veulent travailler avec moi. Tu as envie d'embarquer dans le train, on embarque, etc. Fait que je me suis fait des amitiés qui sont superbes. Des gens qui voyaient dans mon arrivée aussi la capacité de changer les choses, d'amener autre chose à la table. Et c'est ce que je crois que j'ai amené durant tout mon parcours en politique, ou du moins, c'est ce que j'ai tenté d'amener dans mon parcours en politique, avec les réalités de la politique. Je ne pensais pas que j'allais avoir ce ministère-là. Après ça, je ne pensais pas que j'allais être vice-première ministre. Je ne pensais pas que j'allais être chef de parti. Bon, c'est arrivé. J'ai pris des défis à bras-le-corps. À bras-le-corps, puis j'ai dit, OK, je peux être papesse. Je peux faire ça, tu sais.
En mai 2020, au moment le plus intense de la pandémie, tu deviens chef du Parti libéral du Québec.
Oui.
Puis toi, tu représentes vraiment l'image du Québec moderne, une jeune femme noire, ambitieuse, tu sais, extrêmement tournée vers l'avenir. Il me semble qu'il y a un décalage entre qui tu es puis comment tu es perçue.
Mm.
Puis comment tu t'expliques ça?
Bien, il faudrait que tu me dises comment toi, tu sens que je suis perçue.
Mais t'es au courant quand même.
Non, mais c'est parce que
mais y a plein d'affaires. T'es pas perçue comme on te connaît. C'est sérieux, il y a un décalage. Moi, j'ai vu un décalage. Puis ce que j'ai remarqué aussi, puis je vais laisser une autre question ou un autre commentaire là-dedans, il me semble que ça a été beaucoup plus facile pour toi avec Philippe Couillard que quand tu es devenu chef du Parti
oui.
libéral.
Mais ça, tu peux
non,
pas
mais c'était plus, c'est vraiment plus ardu. Fait que, comment... Okay.
Bien, premièrement, tu peux pas... Quand tu dis, moi, j'encouragerais n'importe qui a envie de faire de la politique ici. Ah, quand même, 2, 3, 4, 5... Comment? 4, 5 personnes, good. C'est pas mal quand même. Il y a faire de la politique, puis j'encouragerais n'importe qui, n'importe quand, à aller en politique, avec certains astérix, mais quand même. Mais il y a une grande différence entre faire de la politique et être chef de parti. C'est comme deux affaires, c'est deux mondes. Parce que faire de la politique, t'es député, t'es ministre, t'es vice-premier ministre, t'as des responsabilités, mais t'es pas ultimement le chef du parti. Fait que la pression est juste complètement différente. Complètement différente. Et quand tu es ministre, puis que tu es une femme ministre à l'économie, ce que tu veux, savoir l'air ou être, plus qu'avoir l'air, mais compétent. Tu veux être bonne dans tes dossiers, maîtriser tout ça. Tu sais, les gens t'aiment pas. Tu sais, c'est plus ou moins pertinent. C'est pas... tu sais, moi, ce que je voulais, c'est avancer, faire avancer mes dossiers, pousser l'intelligence artificielle, travailler la modernisation de l'économie, etc. C'est ça qui m'intéressait. Fait que je m'investais dans mes dossiers. Le reste, tu sais, ce que les gens pensent, etc., j'en avais pas grand-chose à tirer. C'est pas ça qui est important, c'est pas ce qui m'animait. Quand tu deviens chef, tout t'anime. Parce que les gens, c'est comment t'es habillé, comment tu réfléchis, comment tu penses, comment t'es avec... Tout est évalué, puis là, c'est plus du tout le même rôle que tu joues. Puis moi, je suis devenue chef d'un parti qui avait besoin d'une grande transformation à l'intérieur d'une pandémie, en étant la première femme chef du parti, la première femme noire chef d'un parti provincial au Canada. C'est beaucoup. C'est beaucoup pour un parti... C'est beaucoup pour une population en pleine pandémie, puis j'ai eu 2 ans. Donc, tu sais, c'est énorme comme travail à accomplir en si peu de temps. Mais j'aime les défis, qu'est-ce que je te dis? Alors, je me suis lancée là-dedans corps et âme. Et la perception, c'est il y a une histoire de temps. Tu sais, rappelle-toi, Pauline Marois, là, est en politique depuis les années 80. Combien de temps ça a pris pour que les gens se fassent même une début d'une idée d'elle? Ça prend du temps pour connaître les gens. On a bien beau parler de François Legault aujourd'hui, mais François Legault a fait 10 ans en politique, 11 ans en politique avant de fonder un nouveau parti, avant de perdre 2 élections générales, avant de devenir... T'sais, ça prend du temps aussi que les gens s'approprient c'est qui ces personnes-là. Tu ne peux pas réduire, c'est un peu une grossesse, tu ne peux pas la réduire à 2 mois. Ça ne marche pas de même. Mmh. Ça prend le temps que ça prend. Mmh. Alors, j'explique aussi ça comme ça. J'explique aussi le fait que être femme en politique, c'est pas vrai que le regard est le même. Tu es jugée différemment. Je finis un débat à Radio-Canada qui, objectivement parlant, avait bien été. J'avais été bonne, tu sais, objectivement. Tu sais, même pas. Puis le gars, la première question, il me dit, mais Madame Anglade, la première question que j'ai, ils sont où vos gants de boxe? Ouais, ouais, je me suis trouvée bonne, moi. Puis elle dit, oui, mais vous n'avez pas boxé. Pourquoi boxer? Qu'est-ce que je devais boxer? Boxer logo? Boxer duel? Tu sais, tu as boxé. Bon, il voit que je sais pas, mais t'as bien boxé. Visiblement. Mais c'est cette manière de penser la politique où on est toujours en confrontation. Il faut frapper l'autre, il faut nuire à l'autre. Et j'oublierai pas non plus qu'à un moment donné, il y avait un résumé des débats. Et chaque chef de parti avait genre une citation sur le moment fort de son débat. T'sais. Fait que là, Legault avait sa citation, Dieu avait sa citation. Puis moi, ma citation, c'était « Mais laissez-la parler. » Parce qu'il y en avait un autre qui avait dit qu'il fallait qu'on laisse parler. C'est comme genre, vraiment? Ça, c'est ma citation. Mais c'est ça aussi les biais inconscients qui existent dans notre société, qui sont encore présents et qu'il faut contribuer à défaire.
Bon, tu parles du temps, tu me laisses une porte grande ouverte. Et là, tu es professeur associé à HEC Montréal. Je me demande à quel point ce poste-là va combler ton besoin de régler des problèmes, puis à quel point ce poste-là va assouvir ta capacité d'agir. C'est un poste d'observation qui permet justement de donner du temps au temps?
Alors, avant de prendre ce poste-là, j'ai quand même réfléchi. Dès que j'ai démissionné, j'ai eu certains appels, notamment celui de HEC, du directeur, puis il avait dit de reconsidérer venir chez nous, mais j'étais dans un autre mode de réflexion. Je venais de finir, j'avais besoin de temps. Ce que je voulais faire, c'est pouvoir réfléchir à l'enjeu qui me préoccupait le plus et qui valait le plus la peine, dans lequel c'était plus pertinent pour moi de m'engager. Puis que tu regardes la question de le changement climatique, l'adaptation au changement climatique, c'est ça aussi que j'ai essayé de faire au Parti libéral. Mm-hmm. Quand j'ai dit l'économie puis l'écologie, c'est un seul, ça peut pas être dissocié, ça va ensemble. Puis tant et aussi longtemps qu'un premier ministre ne prend pas conscience que c'est lui qui a la responsabilité d'intégrer non seulement la lutte au changement climatique, mais toute la question de la diversité, de l'environnement, tu seras pas capable d'arriver à ces changements-là. Tu sais, je ne le disais pas parce que c'était quelque chose qu'il fallait dire, je le disais parce que je le pensais et je continue de le penser. Donc, m'investir là-dedans, pour moi, c'était chouette. C'était de l'impact parce que une des choses que j'ai préféré faire aussi quand j'étais en politique, c'était rencontrer les autres générations. J'ai adoré ça. Tout le temps, là, je me disais, oh, si je n'avais pas l'Assemblée nationale et la période de questions, je ferais juste ça. Bien, profites-en, tu n'as pas l'Assemblée nationale et tu n'as pas la période de questions. Fais juste ça. Aller rencontrer, être avec un environnement. Puis, jusqu'à présent, je dois dire, ça fait juste 4 semaines que j'ai commencé au HEC, mais l'équipe avec laquelle j'ai pu échanger, je travaille, il y en a quelques-uns qui sont ici dans la salle. C'est une super gang! Il y a des femmes, il y a des hommes, il y a Luciano avec qui je travaille, mais il y a des femmes, des hommes que je trouve hyper emballants, qui sont stimulants. Mmh. Tu sais,
Mais tu retournes-tu en politique?
Ben non, pas là.
Non, OK, pas là. OK, c'est beau. Merci.
En fait, je te dirais plus que ça. C'est pas dans mon plan de match là. Puis pour plusieurs raisons, parce que je vais avoir du plaisir. Je me connais, je vais avoir du plaisir à faire ce que je fais. J'ai du plaisir à réfléchir puis à essayer de voir comment tu transformes les programmes, comment tu transformes les choses. Puis HEC, c'est un endroit hyper agile puis stimulant. Puis l'autre variable dont on n'a pas parlé, mais c'est les enfants. Puis ça vient me chercher beaucoup parce que moi, mes enfants, les gens, ils vont voir mes enfants parfois dire « Ah, ta mère, hein, elle a fait des choses dans sa carrière. » Puis là, mes enfants, ils n'en ont rien à cirer. Là. Puis moi non plus, j'en ai rien à cirer. Moi, ce que je veux, c'est une bonne maman. Puis je sais que dans la dernière année et demie de ma carrière en politique, je n'étais pas la mère que je voulais être. Je sais ça. Puis quand tu fais ce constat-là, c'est dur. C'est dur quand tu quittes la maison puis tu dis, là, t'es pas la mère que tu voulais être. Mm. Quand ta fille te dit quand ta fille qui t'appelle t'a dit... quand ta fille te dit « Maman, même quand tu es à la maison, tu n'es pas là », tu te dis « Ouais, là, je pense que je suis en train de manquer un morceau. » Alors là, maintenant, c'est tellement le fun parce que mon fils de 16 ans, l'autre jour, il m'a dit... T'es 10 heures du soir. Ah, oh, maman, j'ai un travail de sport, je sais pas quoi, que je sois pas. Faut que j'aille marcher 2,5 km. OK? Tu veux venir avec moi? Puis là, j'étais comme genre, il est 10 heures du soir, ça me tente tellement pas. Puis j'étais comme genre, avant de répondre, je dis, mais qu'est-ce que t'as d'autre à faire, Dominique, que d'aller marcher avec ton fils, sérieux? Je dis, non, je vais y aller. Fait que j'ai dit, peut-être que c'est la dernière fois qu'il va te le demander. Tu sais? Comme de fait, en revenant, elle me dit, ah, oh, maman, je pense pas qu'on va recommencer. Hey, pas de problème. Mais la semaine d'après, il est revenu. Il m'a dit, « Hey, j'ai un devoir d'éducation physique. Tu veux-tu aller avec moi? » Ben oui, je suis retournée. Fait que là, ça fait 3 fois que j'y vais avec lui. Fait que finalement, je ne suis pas si déplaisante. Mais c'est un privilège que de pouvoir faire ça. C'est extraordinaire que de pouvoir faire ça. Il y a 16 ans, penses-tu qu'à 23 ans, il va me demander ça? Je ne penserais pas. Fait que c'est, ça, je l'apprécie au quotidien, ça, cette capacité. Hier soir, je suis allée voir Zaz avec mes filles à la Place des Arts. C'était génial. On dansait comme des déchaînés. C'était extraordinaire. Mais c'est des moments qui reviendront probablement pas. Donc ça, c'est cet équilibre-là aussi dans ma vie où je suis bien là.
Parfait. Merci. On va finir par le questionnaire brave. Que fais-tu chaque jour pour te donner du courage?
Ben, je pense que j'en ai naturellement. Fait que je pense pas que je fasse grand-chose pour ça.
C'est quoi être brave pour toi?
La semaine dernière, à Washington, je sais pas si vous connaissez Karine Jean-Pierre. Karine Jean-Pierre, c'est la porte-parole de Biden. Allez googler cette femme qui est une femme noire, queer et porte-parole de la Maison-Blanche. OK? Comme quand briser des plafonds de verre, là, on en parle avec elle. Et elle a dit quelque chose de hyper intéressant dans son discours, parce que je l'ai rencontrée la semaine dernière, au moment où tout se passe en Israël, etc., et à Gaza. Et elle dit qu'elle n'est pas d'accord avec le mot « fearless », parce que « fearless », ça veut dire ne pas avoir peur. Mais qu'en fait, c'est pas ça pour elle, « fearless ».« Fearless », c'est quelqu'un qui a peur, mais qui va au front. Puis je trouvais ça très bon. Alors, c'était quoi ta question? Parce que je pense que ça répond à ta question.
C'est quoi être brave pour toi?
C'est ça. T'as peut-être peur, t'as peur en dedans. Tu sens que ça va être tough, ça va pas être facile, mais tu vas au front, puis tu fais face à la musique. En politique, rarement que je refusais des entrevues. Puis on disait, non, faut pas y aller, faut pas y aller, ils vont te massacrer. Bien, ils vont me massacrer. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Je vais répondre. Je vais y aller au BAT. J'allais souvent au BAT. J'y allais au BAT. La théorie de la chaise vide, là, la pratique de la chaise vide, j'ai jamais cru à ça. Moi, je pense que tu t'assumes. Tu t'assumes tes choix, tu assumes qui tu es, puis tu vas au BAT. Puis parfois, tu manges une volée, puis c'est pas grave. Parce que you're fearless.
Qu'est-ce que tu te dis? Qu'est-ce que tu te dis pour t'encourager?
Bien, je me dis que... C'est peut-être sans avoir l'air un peu... Mais regarde le monde autour. Je suis une personne positive, mais je dois faire le constat quand même qu'il y a plein de choses qui ne vont pas bien. Puis je me dis, ceux qui n'ont pas les moyens là, de se battre, là, c'est pour eux que tu te bats aussi. C'est pas juste pour toi. C'est pas juste une histoire de toi, ce que tu penses ou... tu fais la lutte pour tous ceux qui suivent, puis qui te regardent, puis qui... Alors, moi, je me dis tout le temps, c'est pas par rapport à toi que tu fais, c'est par rapport à plein de monde qui n'ont pas la capacité d'agir. Il y a un élément fondamental de mes croyances, c'est que si tu as la capacité de faire une différence, d'avoir un impact, tu as la responsabilité de le faire. C'est pas juste que, oh, je suis capable, mais je vais faire autre chose de ma vie. Non! T'es capable, fait que tu le fais. T'as une responsabilité qui incombe. On est né dans un endroit privilégié ici au Québec, au Canada. Tous les jours de ma vie, je me dis que je suis privilégiée. Fait que, tu sais, puis on est un méchant paquet à être privilégié puis à devoir prendre nos responsabilités tant qu'à moi.
À quel moment de ta vie n'as-tu pas été brave?
Je sais pas. Pas brave. Ah, petite, peut-être. Pas dans... Plus petite, où je trouve que j'ai... J'ai toujours le sentiment que j'aurais pu être une meilleure grande sœur quand j'étais plus petite, pour défendre ma sœur. J'ai toujours ce sentiment-là, que j'aurais pu être une... Puis tu sais, je me reproche des affaires quand j'avais 10 ans. Tu sais, j'étais une enfant aussi, moi. Mais parfois, je me le reproche. Mais bon, j'ai appris de ça. Puis, faut aussi être indulgent envers toi-même, parfois, puis dire, hey, toi aussi, tu étais une enfant à cette époque-là. Fait que tu peux pas non plus tout prendre sur tes épaules.
Puis, quelle personne incarne le mieux le courage, à ton avis?
Des femmes. Des femmes qui luttent tous les jours pour les leurs, pour défendre leurs enfants, pour les envoyer à l'école, pour les nourrir, dans des conditions qui sont souvent abjectes. Pour moi, il est véritablement là. Après, tu peux nommer plein de personnalités qui font un travail remarquable, que j'admire aussi. Mais dans le quotidien, on est 8 milliards sur Terre, puis je pense qu'il y en a un méchant paquet là-dedans qui, tous les jours, se lèvent le matin puis se disent « Écoute, c'est pas facile, mais on va y aller. » Puis ça, je trouve que c'est ça qui doit nous donner du cœur au ventre d'abord et avant tout.
Finalement, qu'as-tu envie de dire aux jeunes pour les encourager?
Débarrassez-vous des boulets. Essayez plein de choses, parce que tu sais pas ce que t'aimes vraiment, puis tu sais pas ce dans quoi t'es vraiment bon, mais à force d'essayer des choses, tu découvres tout ça et tu apprends à prendre des risques. Puis prendre des risques, c'est hyper, hyper, hyper important. Et il y a des fois où tu vas te tromper, mais je crois que l'avenir appartient à ceux qui sont résilients. Et la résilience, tu l'apprends parce que tu tombes, puis tu te relèves. Tu tombes, puis tu te relèves. Puis cette résilience-là, il n'y a personne qui ne sait pas du jour au lendemain que tu vas l'avoir. C'est à force de faire ce mouvement de tu tombes, puis tu remontes, que tu vas finir par y arriver. Et donc, il faut que tu essaies plein de trucs. Il faut que tu essaies des affaires qui te rendent malade à la limite. Tu dis, oh, je ne suis pas capable, ça va être dur, mais ce n'est pas grave, tu le fais pareil. Puis, il faut sortir de ta zone de confort. La seule chose qui fait en sorte que tu élargis ta zone de confort, c'est que tu sortes de ta zone de confort. Puis tu dis, je suis capable de faire ça. Puis ta zone de confort, elle vient juste de grossir un petit peu. Puis tu sors encore de ta zone de confort, puis tu as réussi, puis tu... Fait qu'il faut sortir de sa zone de confort constamment. C'est ça que je dirais.
Et Dominique, merci infiniment.
Merci à toi. Merci beaucoup.
Comme la plupart des gens dans la salle, j'aurais aimé que cette entrevue dure encore longtemps. Dominique a le don de motiver, d'offrir une vision de la vie sans limite. Aussi, elle se connaît très bien et sait ce qui est important pour elle. Ça lui est fort utile lorsque vient le temps de vivre des périodes plus intenses ou plus creuses, comme celle de la dernière année. L'impatiente devient plus patiente et peut utiliser le temps à son avantage. Je prédis d'ailleurs un retour de Dominique dans quelques années, dans un rôle actif majeur dans notre société. Qu'en pensez-vous? Merci d'avoir été là, encore une fois, chers braves, et à très bientôt.
Brave, la série d'entretiens avec des femmes qui ont du cran, est une idée originale de Marie-Josée Gagnon. Osez nous rejoindre sur notre site web à braveinspiration.com, de même que sur les médias sociaux. Si vous avez aimé ce balado, osez vous y abonner et osez le partager. Merci de nous écouter.